Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de
Salut tout le monde, salut Jinx, salut Romix UI dans le chat, j'espère que vous allez bien. Salut à tous les viewers silencieux et silencieuses, j'espère que vous allez bien également. J'ai oublié de prendre ma gorgée de café avant. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve, on est mardi matin. Je refais vite fait la mise au point. Ah, oh, non, c'était pas ça la mise au point. Et est-ce que là je suis net? Voilà. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillé, que vous avez votre petite tasse de café, éventuellement votre croissant ou que sais-je, votre thé. Voilà, ou que simplement vous prenez pas de petit-déj et que quand même tout va bien. Aujourd'hui, comme d'hab, on va faire une petite matinale d'actu tech. On est ensemble jusqu'à grosso modo 11h, donc on va être ensemble pendant 1h30 et on va parler de plein de choses. On va parler de qu'est-ce que j'ai au programme, de Oppo et OnePlus. Il y a pas mal d'infos qui ont beaucoup tourné hier. On a un article qui fait un peu le récap sur la situation des deux marques en Europe et notamment en France. On a un peu enrichi sous ça depuis hier, depuis la première publication et les premières rumeurs. Alors les premières rumeurs datent pas d'hier, mais on reviendra un petit peu là-dessus. Salut le mitrailleur 64. Est-ce que c'est possible que la caméra frontale du futur S24 aide de l'UPS Plus? Je sais pas ce que c'est l'UPS Plus. Pour le coup, je connais bien la photo, mais l'UPS Plus, ça ne me dit rien. Je fais une petite recherche. De quoi on va parler d'autre également? De Meta qui va préparer UPS Plus. Pour moi, c'est un service de livraison. Donc, je pense pas que ça soit ça. Des pixels sur la caméra frontale. Ah, ok. Des pixels visibles, tu veux dire. Donc, la caméra cachée derrière l'écran. C'est possible, mais on n'a aucune rumeur en ce sens-là pour l'instant. Donc, c'est possible. Enfin, rien ne l'empêcherait théoriquement. Sinon, que généralement, c'est des appareils photo en caméra selfie qui sont... Ouais, il y a ça sur le Fold. Je sais. C'est des appareils photo selfie qui sont de moins bonne qualité que quand l'appareil photo est complètement dégagé, parce que ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui rentre. Et ça veut dire que l'écran est un peu de moins bonne qualité aussi à cet endroit-là. Donc voilà. On n'a pas vu de rumeur dessus, en tout cas. Donc s'il n'y a pas de rumeur, c'est qu'a priori il y a rien qui semble l'indiquer. Généralement, il faudrait au moins qu'il y ait une source, au moins une source fiable qui dise que ce sera le cas. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Après, je t'avoue que je suis moins les smartphones, mais voilà. Salut Orgibus. Et donc on va parler de Quado. Ça vous dérange tant que ça le poinçon sur Samsung? Perso, je le vois pas quand j'aurai du contenu. Pareil, ça me dérange pas non plus. Et puis que sur Samsung comme sur d'autres. Hein, là, j'ai un Vivo X80. J'ai le poinçon je le vois à peine hein. Donc bon, et puis avec un bon fond d'écran quand tu as une partie noire, en vrai on peut le cacher, et quand tu as de la vidéo, si ta vidéo est en 16:9 ou voire en 18:9, normalement tu vois pas le poinçon à moins d'étirer la vidéo, donc ça devrait, c'est peut-être chiant dans les jeux, mais sinon globalement, enfin moi je trouve pas ça trop gênant, je trouve ça moins gênant que des grosses bordures noires qu'il y avait quand on avait des écrans 16:9. Mais bref, quand je dis les bordures noires, c'est les bordures physiques du téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des astuces pour reconnaître les photos créées par l'IA. Ça peut être intéressant avec des belles images d'illustration. iOS 17, une mise à jour plus importante que prévu avec les nouveautés les plus demandées. On va parler également d'un smartphone à stylet de chez, non pas Samsung, mais Motorola. De Meta qui a annoncé qu'ils avaient plein de jeux en développement pour le MetaQuest, de Face ID qui pourrait arriver sur l'Apple Watch, pourquoi pas. De Nvidia et les crypto-monnaies, histoire d'amour, histoire de désamour, histoire de haine, histoire d'hypocrisie un petit peu, c'est compliqué, on y reviendra. De tests de deux enceintes Sonos, qui ont été annoncés il y a quelques semaines et les tests ont été publiés hier. Les Sonos Era 300, donc Era 300, c'est la grosse enceinte Dolby Atmos, un peu concurrente du HomePod, mais en plus cher que le HomePod. Et la Sonos Era 100, qui est la successeur de la Sonos One. On va parler également de Tesla, de la Pixel tablette, du OnePlus Nord CE3 Lite et en plus de Oppo et OnePlus, ce dont je vous ai déjà parlé, de AirPods Pro qui aura droit à une nouvelle version et voilà. Pour reconnaître une image IA, tu comptes les doigts et malheureusement c'est plus compliqué que ça lors d'Ibus parce que GPT, non c'est pas GPT, c'est comment ça s'appelle le nouveau truc de OpenAI. En gros ils ont annoncé ChatGPT 4 récemment, mais ils ont également pour les images, leur truc pour images là, DALL-E 2. DALL-E 2 qui a priori s'est amélioré et maintenant prend en compte le fait qu'on a bien 5 doigts sur une main. Midjourney. Non, Midjourney, c'est pas OpenAI, mais voilà. Mais aujourd'hui, oui, non, ça y est, maintenant les intelligences artificielles génératrices d'images sont capables de faire 5 doigts. C'est incroyable, grosse nouvelle. Et on peut commencer par ça. Alors, on commence par ça ou par Oppo ? Comment reconnaître des images qui sont fausses, créées par l'IA, ou par Oppo et OnePlus, la situation actuelle en France. Sachant que la situation en France, on a eu du nouveau. Nous, on a eu des informations, mais c'est encore susceptible de bouger dans la journée, etc. Parce que je crois que autant il y a des informations qu'on a reprises des communiqués européens. Nous, évidemment, vous le savez, enfin, vous en doutez, on a des contacts avec Oppo et OnePlus en France, les équipes françaises. Elles ne nous ont pas encore forcément toutes répondu. En tout cas, pas en on. Salut Mwendingo, salut Sir Newt, salut Jinx, salut Lord Gibus. Oui, Lord Gibus, j'ai déjà dit, mais salut à tous. Bon, voilà, moi, j'attends votre réponse, hein. Parce que là, vous faites coucou, mais... Faites comme si j'étais pas là. Est-ce que du coup vous voulez plutôt allons pour DALL-E. Ok. DALL-E c'était ici et je vous partage l'écran. Voilà. Nos astuces pour reconnaître les photos créées par IA, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Microsoft Designer, etc. Et encore on n'a pas tout mis parce que Adobe a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient leur propre génération d'images maintenant. Bard. S'est lancé, alors je crois pas qu'ils fassent d'image pour le coup encore, Google Bard, mais pour le texte, ils sont lancés en Grande-Bretagne et aux États-Unis la semaine dernière. Donc ouais. C'est quoi la question? Ah pardon, oui, il y en a qui bossent. La question c'est, est-ce que vous voulez commencer par Oppo et OnePlus ou par comment reconnaître des fausses images par IA avec une magnifique image d'illustration? Donc vous n'êtes pas le seul à vous être fait tromper par une photo créée à l'image à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. En effet, les images générées par IA sont de plus en plus réalistes. On le voit là sur cette photo de Macron avec des CRS. Pour le coup, vous êtes un peu loin, vous n'êtes pas réveillé le matin, vous la voyez, vous pensez que c'est une vraie photo assez facilement. Et il y en a une qui est encore plus marquante, c'est celle-là. Celle-là qui a beaucoup circulé et qu'on va pas mal prendre comme exemple. Qui a beaucoup circulé, Oppo et OnePlus P1. Bah, Oppo et OnePlus, on le fera après. Celle-là a beaucoup circulé parce qu'en fait, elle est vraiment réaliste. Mais, alors, et surtout, regardez. Enfin, est-ce que je peux zoomer proprement? Non, vous allez. Le nombre de doigts, théoriquement, il en a bien 5. Alors, on voit pas le cinquième, mais il en a bien 1, 2, 3, 4, 5, le pape. Donc, voilà. Mais, faut toujours regarder dans les détails. C'est la clé doudoune, je me suis fait avoir hier. Ouais. Il y a de quoi, parce qu'en plus, elle est pas. C'est pas une image qui est choquante, à part que bon. C'est un pape avec une... Enfin, c'est le pape avec... C'est Benoît XVI avec... Pardon. C'est pape François avec une grosse doudoune. Oui, ça, vous voyez, je suis vieux. Hein. Je parle de Benoît XVI, encore, j'aurais pu parler de Jean-Paul II. C'est le pape François avec une grosse doudoune. Mais il y a deux éléments, notamment, qui peuvent être trompeurs. Ça va être la croix, qui est un peu tordue, et on a l'impression qu'elle épouse la forme de la veste. Ça manque un petit peu de finesse ici. Et ce truc-là, à gauche, qui est une espèce de gourde slash bouteille slash on sait pas trop quoi, qui a été généré par l'IA et qui pour le coup n'existe pas. J'ai une belle sœur, elle m'aurait dit direct, ça fait des années qu'il marche plus droit. En vrai, il est encore jeune le pape François, j'ai l'impression. Donc voilà, comment toutefois, donc il y a certaines astuces pour reconnaître une image créée par IA comparable à celle utilisée pour identifier une image retouchée avec Photoshop et est censée être sensibilisée à la détection d'images générées par IA car il est aisé de tomber dans le piège de leur réalisme trompeur. Des exemples notables incluent une photo du pape François vêtu d'une doudoune blanche ainsi qu'une image de Donald Trump apparemment arrêté par la police, cette image-là. Ces images, bien que semblant réalistes à première vue, sont en réalité le résultat de techniques de génération d'images par IA. Vérifiez le titre, la description et les commentaires. Tout d'abord, il est important de vérifier le titre et la description d'une image ainsi que les commentaires associés. Comme nous, par exemple, certains médias choisissent de mentionner l'utilisation d'une IA. Nous, quand on va le faire, à chaque fois, on dit « avec Midjourney ». On le fait, pour info, on le fait déjà sur Frandroid parce que parfois, pour illustrer, c'est juste génial de passer par ça. Et on avait fait « meilleure console Frandroid ». Je crois que Omar avait utilisé l'IA notamment pour... il y a 6 jours, voilà. Pour cet article-là, donc, qui était là pour accompagner une vidéo qu'on a publiée la semaine dernière sur la chaîne YouTube, voilà, on a voulu faire un article, enfin une image de la guerre des consoles, et donc du coup, bah, on a généré cette image-là, en précisant, avec Midjourney. On précise, nous, en tout cas, systématiquement, je crois que Le Monde aussi commence à le faire, Numérama, évidemment, ils font comme nous, donc maintenant, on précise d'où vient l'image. Après, ça n'empêche pas sur les photos d'être repartagées dans sur des réseaux sociaux, mais voilà. Et d'ailleurs, cette image-là, on a quand même deux images avec un logo PlayStation, donc c'est la guerre des consoles entre PlayStation et PlayStation, et puis là on a une espèce de manette de Virtual Boy. Elle est un peu bizarre, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme astuce ? Donc évidemment la légende, rechercher des anomalies dans l'image, je pense que ça c'est le plus important. Voilà, comme tu dis, Mwendigo, quand tu travailles dans l'illustration, tu peux voir les détails un peu bizarres, mais en vrai, si on n'est pas dans le contexte d'un article, cherchons si la photo est truquée, ben on se laisse berner. Rechercher les anomalies dans l'image, les images générées. Et puis en vrai, il y a un truc aussi de plus c'est gros, bah plus c'est gros. C'est-à-dire que si vous voyez un truc où vous dites non, c'est pas vrai, il a pas fait ça, ou non, ça a pas pu arriver, au lieu de vous dire c'est incroyable, j'ai envie de partager parce que c'est incroyable, dites-vous c'est incroyable. Donc je vais vérifier là sur cette photo-là si c'est une vraie photo ou pas. Nous, enfin, c'est un réflexe qu'on a en tant que journaliste, mais c'est pas parce que c'est incroyable que. Et justement, c'est parce que c'est incroyable qu'il vaut mieux vérifier. Règle numéro 1, si une photo est étonnante ou va dans votre sens de vos idées politiques, faites un clic droit puis recherchez avec Google pour voir l'occurrence sur d'autres sites qui pourraient la débunker. Exactement. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, Mwendigo. Et a fortiori, justement, si ça va dans vos idées politiques ou autres, hein. Mais enfin, je dis politique, mais ça pourrait être un truc sur la guerre des consoles, où vous voyez une info avec, je dis n'importe quoi. Si vous êtes fan de Microsoft et vous voyez Sony qui finalement lâche du lest et signe un accord avec le Xbox Game Pass, avec une poignée de main entre les deux et un accord et un, j'invente complètement. M'emballe, mais voilà, un accord Sony Xbox Game Pass avec le patron des deux boîtes qui serre la main, ça arrivera peut-être, mais ça demande vérification. Les images générées par IA présentent souvent des marques visuelles étranges, telles que des distorsions bizarres qui sont plus faciles à repérer en observant attentivement l'image. Par exemple, certains détails peuvent trahir le fait qu'une image est générée par IA, comme des lunettes qui se fondent dans la peau, des arrière-plans flous ou des objets asymétriques. Alors les arrière-plans flous, voilà, typiquement cette image-là, alors elle est réaliste, mais Elon Musk il n'est pas si beau que ça, hein. Voilà. Et même sans clasher Elon Musk sur son physique, bon, c'est gros. Généralement, les générateurs d'images rencontrent des difficultés pour créer des mains de manière réaliste, ce qui se traduit par des représentations inexactes ou déformées. Cette imperfection est due à la complexité de la morphologie des mains, qui comporte de nombreux détails et articulations, rendant leur reproduction fidèle par les IA plus ardue. Oui, en plus, là, on voit les... Oh, le pouce, il est chelou, là. Donc, il est censé avoir le bras comme ça, en fait. Je sais pas. Regardez la main de ce portrait d'Elon Musk généré avec Midjourney. En plus, il tient son sabre à l'envers. Ouais, mais peut-être qu'il est en train de faire un espèce de fou, comme ça. Les mains générées par IA peuvent présenter des anomalies telles que des... Voilà, moi, typiquement, j'adorerais que cette image soit vraie, je la partagerai partout. Les mains générées par IA peuvent présenter des anomalies telles que des doigts disproportionnés, mal positionnés ou en nombre incorrect. De plus, les articulations et les contours des mains peuvent être mal définis, donnant l'impression que les mains sont fusionnées ou floues. Ces erreurs dans leur représentation des mains sont particulièrement frappantes lorsqu'elles sont comparées à d'autres éléments de l'image qui peuvent être très bien réalisés. Il est donc important de prêter attention aux mains lorsqu'on examine une image pour déterminer si elle a été générée par une IA. Alors, sachant qu'un jour ça va s'améliorer, donc faut pas se contenter des mains, évidemment. Cependant, il convient de noter que les générateurs d'images... Pardon, j'ai spoilé la suite de l'article. S'améliore continuellement et qu'il est possible que les futures versions de ces IA soient capables de créer des mains plus réalistes et détaillées. Les visages créés par les générateurs d'images peuvent parfois présenter un aspect plastifié. Alors ça, pour le coup, je trouve qu'on la voit bien ici. Alors, à part le fait que cette photo de Macron, enfin cette image de Macron, il a une tête qui est complètement déformée. Bon, bah déjà, ça trahit un peu le truc. Souvent, on va avoir, et je crois qu'on l'avait aussi sur la première. Voilà, là, on a un côté, un poil plastique très lisse sur la peau, qui du coup, bah, perd un peu le... Enfin voilà, moi, ça me perd un peu. Il y a un côté lumière parfaite, en fait. Aucune aspérité sur la peau, il y a bah, un côté, du coup, qui va être assez plastique. De loin, ça passe, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Une apparence artificielle. Cette caractéristique est souvent due aux techniques d'apprentissage automatique utilisées par les IA pour générer des images qui peuvent produire des textures de peau lisses et brillantes comparables à du plastique ou à du silicone. Ouais. Là, on le voit. Encore là, ça va. Je trouve que ça rend pas trop mal. En revanche, là, ce qui est chelou, c'est ça. Et ici. Genre, il a des cicatrices, là, Elon Musk. C'est un homme fragile. Ici, c'est la manette de jeu qui est étrange. Oui. Voilà. Faites gaffe aux détails. Sur le flou en arrière-plan, je suis pas totalement convaincu par l'argument. Alors, à voir comment c'est géré. Mais en soi, du flou d'arrière-plan, c'est logique. Hein. Enfin, sur une photo, avec une grosse ouverture, vous aurez du flou d'arrière-plan. Alors là, le flou est chelou. Typiquement, des formes comme ça, ça n'existe pas normalement. On va avoir des formes qui sont rondes sur ce qu'on appelle des billes de bokeh. C'est généralement forcément rond. Ou hexagonal, ou voilà, mais on n'a pas de forme. On a une forme qui va être grosso modo comme ça, et ensuite avec plus ou moins d'angle, mais voilà. Les gens, ah bah le photographe a essayé les améliorations de la pose, son smartphone activé. Non, parce que ça se voit que c'est pas du smartphone pour le coup. T'as pas un flou qui va être aussi propre avec un bokeh qui sera aussi propre derrière sur un smartphone. La lumière, tu peux dire que le photographe a juste amélioré un peu l'image, en général c'est la forme de l'iris. Exactement. Ce qu'on a d'ailleurs sur choisir, objectif, photo, frandroid. Ce que j'explique sur le bokeh, on l'expliquait ici. Selon le nombre de lamelles utilisées par le diaphragme de l'objectif, vous allez voir des billes de bokeh de formes différentes. Ces billes reprennent en fait la forme que perçoit le capteur au travers de l'objectif. Quand on parle de diaphragme, c'est ça. Donc là, c'est un diaphragme avec 9 lamelles, ce qui fait du coup un... je crois que c'est 9 lamelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je crois qu'il y a 9 lamelles, donc du coup, sera les billes de bokeh sur cet objectif-là vont avoir une forme plutôt ronde du coup, parce qu'à 9 lamelles, on voit pas trop de différence, mais en fait, bah, c'est il y a 9 côtés. Là, on voit que c'est un diaphragme à 7 lamelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lamelles peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lamelles. Il faudra que je refasse les jambes. Donc voilà, normalement, il y a des formes qui dépendent justement de l'ouverture. 8, pas 7, ouais, je le referai sur Note. De toute façon, il faut que je leur montre ce dossier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il est crucial d'examiner minutieusement les détails, car il est exceptionnel que les photos soient exemptes de défauts. En effet, les images générées par IA, même les plus réussies, présentent souvent des imperfections ou des incohérences qui peuvent révéler leur nature artificielle. Ces anomalies peuvent inclure des éléments déformés, des proportions incorrectes, des textures inhabituelles ou des erreurs dans la perspective. Là, en vrai... Lui là, je sais pas ce qu'il tient dans la main, mais c'est pas un smartphone. C'est un smartphone transparent avec une coque. Octogone, oui, je l'ai le octogone, mais octogone à... Enfin, du coup, un polygone à 9 lamelles, je sais pas comment ça s'appelle, l'heure du bus. Ah, il est un peu dans le futur, hein, on est d'accord. Donc parfois, voilà, typiquement un truc comme ça n'existe pas. Il rencontre des difficultés pour représenter correctement des éléments rares et complexes en arrière-plan. De plus, il peine à modéliser l'écriture. L'écriture, souvent, c'est un très bon indice. Si vous avez un sac ou... typiquement, si on reprend une image où il y a des trucs qui sont... Voilà, typiquement ça, ce panneau, il n'existe pas. Hein. C'est un bon indice aussi. Alors l'image n'est pas hyper réussie, mais là, ça c'est pas du texte, ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du texte. Sur le papier, il n'y avait pas d'écriture. Là, ils n'ont pas écrit police. Après, ils n'ont pas leur badge d'immatriculation, mais ça, c'est normal. Les générateurs d'images ont du mal également avec la symétrie. Par exemple, les yeux ont tendance à pointer dans la même direction et sont habituellement de la même couleur. Mais les images créées par IA représentent souvent un strabisme et une hétérochromie. La symétrie est également fréquemment visible, par exemple, avec des oreilles très étranges en termes de hauteur ou de taille. Regardez les arbres. Ah oui, oui, non, cet arbre-là n'existe pas, par exemple. À basse définition, la plupart des images présentées dans le document sont presque indiscernables des photographies. Prenez le temps de zoomer dessus, vous verrez alors sans doute des artefacts. Mine de rien, en 3 ans, on est passé d'images d'art abstrait à du photoréalisme quand même. Oui, non, mais en vrai, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a fait cet article-là. C'est parce que, justement, c'est très fort. Idem sur Twitter ou sur Insta sur un écran de 6 pouces. C'est vrai, tu vois pas grand-chose. Imaginez, en quelques années, ce sera vraiment parfait, même en zoomant. Alors, par contre, il y a un autre truc, c'est utiliser un détecteur. Les générateurs d'images sont IA sont alimentés par des réseaux antagonistes génératifs, GAN pour Generative Adversarial Network. En 2021, les ingénieurs de Mayakitra ont réalisé un détecteur de GAN pour aider à identifier des images générées par IA. Toutefois, les résultats de cet outil sont parfois peu fiables et est donc préférable de l'utiliser en combinaison avec d'autres méthodes. Mais ça peut être un bon outil. Je vous partage le lien de... Hop. Si vous avez un doute sur une photo, vous pouvez la partager là-dessus. Ces techniques vous permettront de développer un esprit critique face au contenu visuel que nous rencontrons quotidiennement sur Internet et les réseaux sociaux. Comme mentionné précédemment, il deviendra de plus en plus difficile de distinguer les images générées par IA des photographies réelles. La technologie évolue rapidement et les algorithmes deviennent toujours plus performants et sophistiqués, rendant les créations artificielles presque indiscernables des images prises par un appareil photo. Et puis honnêtement, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui... certes, les photos en elles-mêmes se multiplient, mais les outils se multiplient aussi. C'est-à-dire que ça a commencé, on avait OpenAI et DALL-E, on a eu Midjourney, on a eu Stable Diffusion qui est arrivé, on a Microsoft qui a lancé le sien, Microsoft IA Image Frandroid. intégré directement dans Bing maintenant, Bing Image Creator, pour générer des images avec l'IA. Et ça, vous pouvez y accéder direct, enfin, dès maintenant. Ah non, pas encore. Mais bref, ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Adobe qui a lancé son truc qui va être intégré directement à Photoshop. Alors pour l'instant, moi j'y ai accès, mais j'ai accès qu'en version cloud, donc voilà, Adobe Firefly. Donc ça arrive aussi. Et donc en fait, plus il y a d'outils, bah derrière il y a une concurrence et donc du coup il risque d'être encore, enfin assez rapidement, bah meilleur quoi. Parce que la concurrence va pousser un petit peu les constructeurs, enfin les éditeurs, à s'améliorer pour être le plus efficace et avec des artefacts qui vont être de plus en plus compliqués à détecter. Surtout qu'avant on cherchait les retouches, mais de nos jours on ne retouche plus l'image, on la crée entièrement. Exactement. Ouais, on est passé en fait de la retouche photo au filtre par IA. Et on a vu encore, il y a 3 semaines ou il y a 1 mois qu'on parlait de filtre TikTok qui rendait beau ou belle, etc. et qui était hyper réaliste. Je sais plus, Bold Glamour, je crois que c'était ça. Je sais pas si nous on avait fait un article dessus. Voilà, le filtre Bold Glamour qui vraiment permet de maquiller des personnes, de complètement changer l'esthétique. Enfin, sans changer complètement l'esthétique, justement, de garder la forme du visage, mais vraiment d'embellir quelqu'un. Et là, on passe carrément donc à l'IA absolue. Genre, il n'y a même plus de photos de base, quoi. Attention avec les détecteurs, une illustratrice a été détectée comme ayant utilisé une IA, alors qu'en fait, c'est que les IA ont avalé son travail. Après grosse discussion, elle a pu être payée pour son travail, mais ça pose de gros soucis pour les pros. Ouf, c'est dur ça. À tel point qu'hier a été votée aux USA une loi sur les mineurs et Internet. J'ai pas suivi la loi, mais ouais, très probablement, leur dit. Très probablement, parce qu'en vrai, il y a des questions qui se posent aussi sur le rapport à, surtout quand t'es adolescent, le rapport à quoi tu ressembles, etc. Et ça peut. Bah oui, quand on parlait de Photoshop il y a 20 ans, on a eu des lois en France pour interdire, ou en tout cas pour préciser dans les publicités, qu'une image avait été retouchée. Ah, Oppo et OnePlus ? Je vous propose Oppo et OnePlus maintenant. Si vous voulez pas qu'on parle de ces marques, on n'en parle pas. Voilà. Bon, Oppo et OnePlus, allez. Il y avait aussi déjà le souci des gens qui veulent se refaire le nez à cause des selfies. Oui, non, mais il y en a plein. Oppo, merci Dadou, merci Mwendingo, merci les yeux Snake. j'ai un peu de latence. Alors, Oppo et OnePlus quittent la France ? Point d'interrogation. Au début, on quitterait la France parce que les informations étaient un peu absolues. On l'a retitré. De toute façon, on l'a édité un peu au fur et à mesure de la journée. Les marques répondent aux rumeurs. En gros, depuis quelques... Je vais vous faire un truc business. Hein. Depuis quelques semaines, quelques mois même, on a des bruits de couloirs, que ça soit de confrères, que ça soit de constructeurs, que ça soit de... On entend des bruits selon lesquels... Alors déjà, Realme a déjà quitté la France. En tout cas, Realme n'a plus d'équipe en France. Ils ont une équipe Europe qui est basée en Chine, mais ils ont quitté la France. Et on entend des bruits de couloirs selon lesquels Oppo, bah, ça irait pas super bien. Et il s'apprêterait à quitter l'Europe. On entend ça. On n'en fait rien, parce qu'on l'entend, mais... C'est plus en plus récurrent. Moi, j'ai encore entendu un événement la semaine dernière. J'ai pas d'infos, à part ces bruits de couloir, et c'est des bruits de couloir, on n'en fait rien. Donc, voilà. Hier dans la journée, on a eu Snoopy Tech, qui est un liqueur qui est plutôt réputé, qui tweet ça. Oppo va quitter la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Suite à ça, on a eu un site, alors je vais pas dire de bêtises, chinois, je crois. C'était quoi la langue à la base ? Je crois que c'est chinois 36KR. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, Beijing. C'est chinois. On a ce site chinois qui a publié... Alors, les activités d'Oppo au Royaume-Uni en Allemagne se contractent, conservant quelques... Bon, faut traduire. Hein. Mais grosso modo, Oppo va quitter la Grande-Bretagne, la France et le Royaume-Uni aussi. Suite à ça, Max Jambord, un autre leaker plutôt réputé, qui connaît très bien OnePlus en plus, qui a sorti pas mal d'infos sur OnePlus. Je peux le confirmer, Oppo et OnePlus vont se retirer d'Europe. Les premiers pays qui vont quitter seront l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas.
Wendigo.
Donc, on a ces informations-là qui tombent. La France compte, donc nous on fait l'article. La France compterait parmi les premiers touchés, les premiers pays touchés avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. On rappelle aussi quelques trucs. Donc l'Oppo Find N2 Flip et le OnePlus 11 seraient donc parmi les derniers smartphones sortis par la marque en France. À noter tout de même qu'un événement pour le OnePlus Nord CE3 Lite concernant la France est prévu début avril. On en parlera plus tard. Selon Roland Quant, donc Roland Quant c'est pareil, c'est WinFuture, c'est un journaliste qui est hyper fiable, journaliste allemand hyper fiable. D'après lui, Oppo prévoirait de fermer son antenne allemande d'ici la fin du mois de juin. Le journaliste précise ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils ferment leurs opérations dans l'Union Européenne, dont le siège se trouve également en Allemagne. Suite à ça, et surtout c'est dans un contexte, hein, outre les bruits de couloir qu'on entendait depuis des mois, voilà. Dire que depuis plusieurs semaines, les rumeurs entourant un possible arrêt des activités d'Oppo en France se montraient de plus en plus pressantes est un euphémisme. Nous avions nous-mêmes constaté il y a quelques semaines que Realme, qui appartient au même groupe, avait fermé ses bureaux français, signe indiscutable d'un ralentissement de l'activité. Les bruits de couloir avançaient aussi depuis plusieurs semaines que l'Oppo Find X 6 Pro, fleuron de la marque, ne sortirait pas en France, ce qui avait tout de même pas mal surpris après un accueil critique dithyrambique sur le précédent modèle, donc le Find X 5 Pro. Oppo sort très affaibli de l'année 2022 d'après nos estimations basées sur les chiffres de IDC, donc un cabinet d'analyse. L'entreprise a vu ses ventes de téléphones dans le monde chuter de 22% et aurait donc vendu 30 millions d'appareils en moins l'année précédente. Un autre élément cité par 36KR, donc le site chinois, repose sur un conflit judiciaire entre Oplus et Nokia. Et ça, on en reparlera un peu plus tard, mais ça, c'est hyper important. Entre Oplus et Nokia, la marque finlandaise, donc Nokia, reproche à Oppo et OnePlus d'avoir utilisé des technologies 4G et 5G de façon illicite. Oppo ayant perdu son procès, les ventes de ses produits avaient été interrompues en août 2022 en Allemagne. Étant en train d'assister aux retombées de cette affaire pour le reste de l'Europe, c'est ce qu'évoquent certains observateurs. En tous les cas, pour le moment, Oppo et OnePlus se montrent rassurants. Et donc là, on va aller voir les réponses. Selon un tweet du journaliste de The Verge, John Porter, le responsable mondial des relations publiques de OnePlus, James Patterson, nie les allégations et les informations selon lesquelles OnePlus va quitter l'Europe. OnePlus ne se retirera pas de l'Europe et du Royaume-Uni et maintiendra des activités stables sur les marchés locaux. OnePlus continuera à investir en Europe et à fournir des produits et des solutions plus innovants à ses utilisateurs. On notera que les autres pays, y compris la France, ne sont pas cités dans cette déclaration. Oppo France nous a contactés à propos de ces rumeurs, voici leur déclaration, et c'est la même déclaration qu'ils ont fait sur toute l'Europe, enfin en version internationale. Oppo et OnePlus maintiennent leurs engagements sur tous les marchés européens dans lesquels ils sont présents. Nous avons connu un excellent début en 2023 avec des lancements réussis de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l'année. Comme toujours, Oppo et OnePlus continueront à fournir des produits plus innovants et le meilleur service pour les utilisateurs. Donc eux se veulent plutôt rassurants, mais il y a quand même lieu de croire que l'entreprise traverse des difficultés importantes et nous ne pouvons donc pas accorder un blanc-seing à ces déclarations, même si elles font foi pour l'heure. Parce qu'en gros, c'est pas parce qu'eux disent on va continuer de lancer des produits, etc., que d'une part, ils vont continuer à avoir des équipes en France. Parce que ça, il peut lancer des produits en France, en théorie, il pourrait le faire depuis une version, enfin un siège européen. On a des constructeurs aujourd'hui qui sont présents en France, mais qui n'ont pas d'équipe France. Realme, par exemple. Realme, ils ont des relations presse Europe qui sont basées en Chine. Donc rien ne les empêcherait sur le papier de désinvestir complètement l'Europe, de plus faire de communication, de juste faire des lancements de produits qui seront disponibles sur Amazon, quoi. Je caricature un peu, mais voilà. Et pour le coup, je crois que c'est Nico Lelouch, collègue de chez Numérama, qui le rappelait. OnePlus, ils ont déjà fermé en France. OnePlus, pendant le Covid, ils ont licencié. Il reste quasiment plus personne aujourd'hui qui est chez OnePlus, quasiment. Hein. Je crois qu'il doit rester peut-être deux ou trois personnes, grand maximum. Qui était chez OnePlus il y a 3 ans et qui y est encore. Ils ont complètement refondu leurs équipes quand ils ont fusionné avec Oppo. Et donc ils ont viré tout le monde, quasiment tout le monde. C'est Xiaomi qui va être content, ils ont la voie libre. Oui, oui. Et surtout par contre, en vrai, ça pose beaucoup de questions sur le marché du smartphone, parce que bon, c'est un marché qui est en crise, on le sait, ça fait un moment, aujourd'hui il y a quasiment plus de marques qui sont en croissance. Je crois que le seul constructeur au niveau monde qui est en croissance, c'est Honor, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une marque qui est jeune, mais qui a l'avantage d'avoir déjà une réputation. En amont. Et ensuite, on est passé en 2018, on avait un marché où c'était Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi. Oppo était pas encore présent. Enfin, Oppo se lançait en 2018. Où aujourd'hui, où il y avait déjà, il y avait OnePlus qui était là, il y avait Realme qui se lançait aussi en 2018. Aujourd'hui, il y a plus personne, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus Huawei, on risque d'avoir assez peu Oppo, on n'a plus Realme, OnePlus, on va voir. Donc c'est compliqué. Le OnePlus, tu parles de OnePlus et LG Snake ? Ah non, le Find X. Le Find X 6 Pro est affreux à mon goût comparé au 5 Pro qui était magnifique en blanc avec sa céramique et les 1600 cycles de batterie. Ok. Oppo qui prenait pas mal d'ampleur pendant un moment. Ouais, Oppo, ils sont passés numéro 4 France, hein, de mémoire. Un ami retraité qui n'est pas au fait des smartphones m'avait cité Oppo pour un nouveau téléphone, ça m'avait étonné. Non mais Oppo, en plus, c'est là où c'est étonnant, c'est que... Alors nous, on connaît parce que bon, vous et moi, on travaille ou en tout cas ensuite près la tech. La preuve, vous êtes sur un Twitch, une chaîne Twitch, un mardi matin à 10h, on parle de tech. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de jeux vidéo ici. On parle sérieux, actu tech. Mais pour le grand public, Oppo, pour le grand public, Oppo, c'est ça. Oppo, c'est ça. Oppo, c'est l'euro. Donc le grand public connaît Oppo grâce au sponsoring. C'est, si je dis pas de bêtises, en plus ils ont ça aussi. Ah, j'arrive pas. Ouais, ils ont Roland Garros. Donc ils ont fait beaucoup de sponsoring. Il y a un seul L à Roland Garros, Dadou. Je me suis suffisamment fait reprendre en commentaire sous mes articles pour le savoir. Donc ils ont fait beaucoup de sponsoring d'événements sportifs pour justement faire connaître leur marque et grosso modo pour pas faire la même erreur que HTC il y a des années, etc. où les gens s'en foutaient en fait parce qu'ils connaissaient pas la marque. Donc Oppo a tout fait pour avoir une reconnaissance de marque. Donc ça veut pas dire que les gens associent les produits, savent ce que c'est, etc. Mais simplement, on leur dit Oppo, ça leur parle, en tout cas. Voilà. Maintenant, tout le monde saura que je suis pas le sport à la télé. Non, pour le coup, Oppo sponsoring, sponsor... Est-ce qu'ils ont une page qui répertorie tout ça? Sport, ils ont quoi d'autre? Wimbledon? Ils ont Wimbledon, voilà. Donc ils ont fait beaucoup de sponsoring, donc la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont l'Euro, mais je dis peut-être une bêtise. Ah, annonce son partenariat avec l'UEFA, c'était sur quoi? UEFA Champions League, la Super Cup... Futsal, on s'en fout, ok. Donc ouais, l'euro, on sait pas encore. Mais donc du coup, voilà, Oppo, ils sont beaucoup fait connaître aussi auprès du grand public grâce à ça. C'est ça qui fait que probablement que ton ami retraité connaissait Oppo, probablement. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fini sur Oppo. C'est un truc qui est en développement. Je me demande si l'article n'a pas été mis à jour d'ailleurs, parce qu'on a eu de nouvelles infos hier soir. Oppo OnePlus. Non, ça c'est le Texpresso de ce matin. Enfin, je crois qu'on l'a pas encore remonté. Ah, on l'a beaucoup mis à jour, hein, cet article-là. Et en plus, ouais, OnePlus, c'est quand même une marque qui est historique dans le monde des smartphones. Oppo, c'est relativement récent. C'est-à-dire que Oppo, ils sont lancés il y a 5 ans. Voilà, ils sont arrivés sur la deuxième vague des smartphones. OnePlus, c'est une grosse marque. Et c'est une marque qui est importante. Oh, c'est drôle, ça. C'est moi, avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Bref. je suis fatigué. Realme, on n'entend plus parler. Non, parce que Realme, ils ont quitté la France. Donc, en fait, ils font plus de lancement. Realme for Android. Realme, voilà. On a cet article-là à propos de Realme. Où est passé Realme en France? Et là, pour le coup, ils ont porte-parole de Realme. En gros, ils ont plus personne en France. Ils ont une personne qui gère l'Europe. Mais depuis la Chine. Le directeur général de Realme France, par exemple, Frédéric Chevrier, s'apprête à quitter Realme. Et ça, c'était le 9 mars. Donc, il est peut-être encore... Larsen Vidéo. Ah oui, j'ai eu peur. Oui, c'était Larsen Vidéo. Exactement. Écoutez, on va passer à la suite. Les Sonos, ça vous va les Sonos? Sonos Era 100, Sonos Era 300. Deux nouvelles enceintes connectées. L'Era 100, on va la faire rapidement. C'est une enceinte qui remplace la Sonos. Alors, je réponds juste à Moindigo. Si Oppo et OnePlus partent vraiment, ça risque de faire comme Realme. On n'entendra quasiment plus parler, comme Huawei, où finalement on n'entend plus parler de la qualité de leur tel qu'en vous voyant la tête de DxOMark. Ça risque un peu de faire ça, avec la différence que... Et ça fait un monde du smartphone avec très peu d'acteurs, en fait. Moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, sur le monde du smartphone, il y a Samsung, Apple, Xiaomi, Asus, Google. Mais Asus et Google, faut pas se leurrer, ils font pas de chiffres. Vivo, pareil, ils font pas de chiffres. C'est pas des marques qui font de gros volumes de vente. Donc en gros, c'est vraiment Samsung, Apple, Xiaomi loin devant, très loin devant. Et les autres qui se ramassent les miettes, quoi. L'avantage d'Oppo, d'Oppo et de Realme, ou de LG à l'époque, c'est des marques qui faisaient quand même un certain volume. Alors, pas un gros volume de vente, mais qui faisaient chacune, peut-être 5 à 10% de part de marché. Là, il reste que des acteurs qui vont faire 3 à 4% de part de marché. Les Google Pixel, on en parle, parce que c'est Google, parce que ça intéresse, et que grosso modo, sur les smartphones, on essaie de parler de tous les constructeurs, mais ça se vend pas, ou ça se vend très peu. Si Google fait 200% de croissance sur d'un smartphone, et Nothing, c'est pareil, hein, Nothing, ils font pas de volume de vente. Si Google se permet de dire on a fait 200% de croissance de vente d'une année sur l'autre, c'est parce qu'ils partaient grosso modo de zéro. Donc quand tu parles de... Évidemment, si t'as vendu 1000 smartphones en France, je caricature, hein, j'ai pas les chiffres précis, mais si t'as vendu 1000 smartphones en France, si t'en as vendu 2000 l'année suivante, t'as 100% de croissance. Oui, mais c'est pas pour autant que tu vends beaucoup par rapport à des millions de smartphones chez Samsung ou Xiaomi, qui vont d'ailleurs à cause de ça assez vite se faire bouffer. Xiaomi trop de volume. Oui, bah oui, Xiaomi fait beaucoup de volume, mais Xiaomi a beaucoup de aille peu de vraie concurrence et qu'elle des prix toujours aussi élevés. C'est vrai. C'est vrai, mais ça, bon, de toute façon, il y a des concurrences monde. Hein. Les prix, ils sont basés sur le monde, ils sont pas basés que sur la France. Vivo, la marque qui lance des innovations pour tester. Vivo, le problème, c'est que c'est qu'ils ont pas beaucoup de modèles. Xiaomi, grosso modo, ils ont combien de modèles en gamme? Si on prend les Poco, les Redmi, les Xiaomi, etc., sur une année, ils doivent lancer peut-être une vingtaine de smartphones, peut-être une quinzaine. Vivo. Alors Vivo, ils sont peut-être plus sélectifs et du coup, bah, ils polluent moins, forcément. Mais Vivo, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 5 modèles en gamme. Peut-être un peu plus. Je suis peut-être 1, 2, 3...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4. Alors, en plus, ça, c'est d'une génération. Donc, c'est le Vivo X90 Pro qui était dans ces là. Les V, c'est le V23 cette année, donc ça fait 2. Alors, il y a peut-être un peu de Y. Ok. Et voilà. Oui, c'est ça, tous les modèles sortent pas en France. Après, c'est parce que les équipes de Vivo France font du très bon boulot pour pas tout sortir, parce que bah ils vont pas acheter. Faut comprendre qu'une filiale, alors que ça soit une filiale française ou un distributeur, Vivo, je crois que c'est pour le coup Vivo France est un distributeur de Vivo Monde, un distributeur achète les produits au siège. Donc ils vont pas acheter des produits s'ils savent d'avance qu'ils vont pas les vendre, aux revendeurs, donc typiquement à Amazon, à la Fnac, à Darty, aux opérateurs. Donc pour une marque qui est plutôt jeune, ils ont, à mon sens, plutôt une bonne stratégie. En plus, enfin, ils ont l'avantage d'avoir des gens qui ont un peu d'expérience, qui viennent de chez Samsung, qui viennent de chez Huawei, si je dis pas de bêtises, et de chez Honor pour Alexis, que vous connaissez, enfin vous avez sûrement déjà vu en vidéo. Et voilà, enfin ils font. Pour moi, ils font du bon taf, mais bah, ça suffit pas à faire du volume. Salut Yaoun. Vivo fait de l'entrée de gamme, mais malheureusement, c'est pas les meilleurs pour le prix. Oui, bah oui, ils ont du mal à concurrencer Xiaomi sur ce segment-là. Pour moi, c'est une erreur de pas avoir sorti le Vivo X90 Pro Plus. J'ai tendance à être d'accord. Bah, surtout que c'est moi qui ai testé le Vivo X90 Pro et je teste j'utilise encore le Vivo X80 Pro. Pour moi, je suis d'accord, c'est une erreur. C'est le problème chez Samsung, ça, très peu de temps après, tu peux l'avoir beaucoup moins cher, d'où la décote rapide chez Samsung et pas chez Apple. Oui. Ah oui. Quand on voit qu'avec les ODR, etc., un ami a pu avoir un Galaxy S23 Ultra à 800€ acheté sur le site Samsung moins d'un mois après la sortie. Le vrai prix semble bien gonflé finalement. Après, tu payes l'envie d'être parmi les premiers, le fait d'être un early adopter. Hein. Et ça, c'est pas nouveau. Le problème, par contre, c'est que du coup, à la revente, les Samsung sont beaucoup moins intéressants. Un iPhone, tu peux le revendre aux 2/3 de son prix un an après. Un Samsung, non. Xiaomi monte en gamme, leur prix de lancement de nouveaux produits augmente malheureusement. Oui, mais c'est le cas partout. C'est pas le cas que chez Xiaomi. Après, Xiaomi, c'est vrai que c'est exponentiel. C'est que quand on voit aujourd'hui... Juste, pardon, je vais me moquer un peu, alors pas de vous en particulier, mais de l'audience qu'on peut avoir chez Frandroid. Je vais essayer de remonter sur une vidéo qui doit avoir 2 ans, où j'avais expliqué, 3 ans même, c'était pendant le Covid, si je dis pas de bêtises. Alors, ça remonte. C'était à l'époque du Xiaomi Mi 9, je crois. Donc, il y a 3 ans, puisqu'on était à l'époque, c'était quand on faisait les vidéos depuis chez nous. P40, le confinement. Donc, c'était là, OnePlus, Xiaomi Mi 10 Pro, le test. Ah, vous avez pas le son hein, de la pub. Ou non, c'était pas là. C'était avant le confinement, du coup. Xiaomi. On a fait une vidéo, tout savoir sur le Xiaomi Mi 10 Pro, où j'avais expliqué que d'après nos informations, le smartphone sera bien plus cher que les Xiaomi actuels, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que Xiaomi vendait des smartphones au prix de 500€. Hop, les prix, où est-ce que c'était ? Il faudra pas forcément attendre la fin du mois de février, et autant le dire d'office, le prix devrait taper très fort, parce que c'est l'un des démons... Ouais, non, enfin, je refais pas les jeux de mots. Xiaomi nous avait habitués, alors je me double, hein, à des rapports qui étaient pris, qui étaient très intéressants. Si on prend le Xiaomi Mi 9 de l'an dernier, il avait un Snapdragon 855, il avait la charge sans fil, etc., et était vendu 500€. Même le Mi 9T était vendu pas très cher. Et d'après les informations de 01net, que ce soit le Mi 10 Pro ou le Mi 10, tous les deux devraient avoisiner, être lancés à plus de 800€. Et à l'époque, les gens en commentaire étaient là en mode « Tu dis n'importe quoi, il n'y a aucune chance que Xiaomi lance un smartphone à 800€, on n'y croit pas. » Aujourd'hui, les hauts de gamme de chez Xiaomi, c'est 1400€ ou 1200€. Si je vais sur le site de Xiaomi France, voilà, Xiaomi 13 Pro, si on prend le 13 Pro, on va dire acheter. Voilà, 1300€ le Xiaomi 13 Pro, 1300€. Il y a 3 ans, c'était 500€, un haut de gamme de chez Xiaomi. Pourquoi il y a deux jeux froids sur le live? Donc, Xiaomi a vraiment augmenté ses prix. Après, ils sont à 1300€ si tu prends sur leur plus haut de gamme. 1300€ si tu prends Samsung, Samsung est plus cher. Hein, sur le Galaxy S23 Ultra, en 256Go, on va prendre l'équivalent, il est à 1419€. Si tu prends l'iPhone, on a le 14 Pro Max, si on veut, bah pareil, le plus haut de gamme. 14 Pro Max, donc celui-là, en version, on s'en fout, en 256Go, 1609€. Alors vous le voyez pas là, mais 1609€. Faites-moi confiance. Ah si, je peux vous le montrer, hop. Donc Xiaomi est très cher, mais c'est le cas de tout le monde. Plus que doublé, en l'occurrence. Enfin, ils étaient à 500€, ils sont passés à 1300, c'est plus que doublé. C'est le fait d'arriver dans le marché français qui les obligeait à avoir des prix cassés, exactement. En fait, ils voulaient faire du volume, mais comme beaucoup de constructeurs, ils vendaient, alors peut-être pas à perte, mais en tout cas, ils faisaient pas de marge sur leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils vendaient leur téléphone, au prix auquel ça leur coûtait. Donc du coup, ils en ont vendu beaucoup pour avoir beaucoup de parts de marché. Et aujourd'hui, bah, Xiaomi part de marché. On va essayer de prendre un chiffre un peu plus récent. Chez CNET, ils ont dû le faire. Voilà. Top smartphone. Alors, c'est premier trimestre 2022. C'est pas le plus récent. Mais Xiaomi, voilà, ils sont à 23%. Ils étaient, il y a un an, à 23% de parts de marché. Et quand je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous disais. Ça, c'est les chiffres de Canalys. Donc, Canalys, qui est pareil, un institut qui étudie le marché. Regardez ça. Le top 3. Regardez le top 4 et le top 5. Ce qui veut dire que OnePlus est encore en dessous, Google est encore en dessous, Vivo est encore en dessous, Wiko est encore en dessous, il y a qui d'autre ? Asus est encore en dessous, Sony est encore en dessous. Donc grosso modo, on va avoir un podium à plus de 25%. Et par contre, bah, le top 4 et le top 5, si Oppo, Realme et OnePlus se barrent, Realme c'est quasiment acquis, Oppo, mais s'ils se barrent, bah, du coup c'est... on va avoir plus que 3 marques dans les faits en France. En tout cas, 3 marques qui vendent. Parce que Asus, je les aime beaucoup. J'adore Asus. Que ce soit leurs équipes, que ce soit leurs produits, que ce soit leur philosophie de en termes de smartphones, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais ils ne vendent pas. Asus, ils s'en foutent en vrai des smartphones. Asus, ils veulent vendre des cartes graphiques, des PC, et ils se font plaisir. Ils ont un délire sur les smartphones, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs hyper originaux, parce qu'en fait, ça dépend pas du tout de... Enfin, leur core business ne dépend pas des smartphones. J'ai une petite question, quand il y a une grosse mise à jour iOS ou One UI, il y a des vidéos en veux-tu en voilà sur toutes les nouveautés, mais sur MIUI, ils sont passés à MIUI 14 et personne n'a fait de vidéo sur les nouveautés, comment ça se fait alors que Xiaomi est quand même énormément vendu en France ? Nous, on le fait. On fait pas trop de vidéos, d'ailleurs, sur les mises à jour... Alors, sur les mises à jour iOS... Il y en a de temps en temps, mais c'est... Alors, pourquoi il y a beaucoup de vidéos sur iOS ? Parce que... On va faire un exemple, hein. On est sur la chaîne YouTube de Frandroid. Faut pas se leurrer, hein. Vidéos les plus populaires. Ça marche pas. Grosso modo, alors, chez nous, c'est pas trop le cas, parce que historiquement, on a quand même un lectorat... Enfin, en tout cas, une audience qui est très Android. Mais tu prends... On va prendre Naotech, parce que... Alors, c'est les copains, ils m'en voudront pas si je fais ça, mais en même temps, c'est les premiers à le dire. Naotech, vidéo... populaire, c'est quasiment que de l'iPhone, enfin que du Apple, parce que les vidéos Apple fonctionnent beaucoup mieux, et donc c'est pour ça que, est-ce que je balance une petite crasse, il y a un YouTuber que je n'aimerais pas, dont toutes les vidéos sont sponsorisées sauf les produits Apple, parce qu'en fait sur les vidéos Apple, j'imagine, je sais pas si que voilà, mais sur les vidéos Apple, il rentre dans ses frais parce qu'en fait il fait suffisamment de vues. Sur toutes les autres vidéos, il ne les fait que si elles sont sponsorisées par le constructeur dont il va parler. parce que du coup il gagne pas d'argent parce que tout le monde s'en fout. Si vous intéressez un peu au YouTube Tech, vous trouverez assez facilement. Mais Apple ne sponsorise pas du tout. Apple ne sponsorise tellement pas que même les pubs pour iPhone que vous voyez à la télé, c'est pas Apple qui les fait. C'est les opérateurs qui les achètent, les espaces publicitaires. C'est des pubs pour iPhone, acheté par SFR, par Bouygues ou par Orange. Voilà, vous avez très bien compris de qui je parle. Je crois qu'il y a un ou deux youtubeurs qui sont sponsorisés. Alors, ils sont pas sponsorisés par Apple. Si on prend l'exemple de... comment il s'appelle JB. JB, c'est... Mince. Bah, JB. Lui, pour le coup, il n'est pas sponsorisé Apple, mais il a des contacts avec Apple, comme certaines rédactions ont des contacts privilégiés avec Apple et vont au lancement des produits à Cupertino. Ce qui est pas trop notre cas, ce qui était notre cas quand Melinda était là, mais ce qui n'est plus notre cas aujourd'hui. Mais typiquement, 01net, ils ont des contacts privilégiés avec Apple. C'est pas pour autant qu'ils sont sponsorisés par Apple. iCollection, merci. Voilà. Salut Regan. Bonjour, j'hésite entre LG42C2 ou Samsung 43QN90B pour ma PS5 pièce lumineuse. Bonjour. N'hésitez pas à répondre dans le chat, moi je saurais pas vous dire. J'ai tendance à penser que la Samsung est plus lumineuse. En revanche, la Samsung, le problème, c'est qu'elle va pas avoir de Dolby Vision. Mais voilà. Melinda qui fait des selfies avec Tim Cook, exactement. LG C2. Voilà, bah, les gens disent répondent. En tout cas, Yaoun te répond LG C2. Moi, j'aurais tendance à dire LG pour la compatibilité des formats, mais la Samsung, quoique la QN90B, est-ce que c'est la nouvelle... C'est pas la dalle OLED. Plutôt LG dans ce cas. J'aurais tendance à privilégier l'OLED. L'OLED d'LG est efficace et plutôt lumineux. De mémoire. Bah écoutez, on a beaucoup digressé. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres actus. Et MIUI, on essaie... Enfin, MIUI, on en parle. Hein. On en parle peut-être pas en vidéo, sauf quand on fait des tests de smartphone. Mais si tu vas sur voilà, MIUI, on a fait un article. Oh, il date un petit peu en août. On essaie de le faire généralement. On a un papier qui... normalement, on a un papier. Bah peut-être qu'ils sont, ils sont mal tagués. Mais MIUI, pour moi... Ah si, MIUI 12... On n'a rien sur MIUI 13. Après, c'est plus Titouan qui s'en occupe. Voilà, MIUI 13, on l'a fait. MIUI 14, on l'a fait. Voilà, la liste complète des smartphones compatibles. Les nouveautés, on doit avoir un papier spécifique dessus. Voilà, la liste des nouveautés à venir. On essaie d'en parler à chaque fois. C'est mini LED à 1500 nits. Ouais, donc en vrai, LG, j'aurais tendance à dire plutôt LG. Voir le test de Pépé Garcia sur LG, c'est de tout à fait. Il faut aller voir Pépé ou le test de David, David Noguera aussi. Il teste aussi des téléviseurs, alors qu'il le fait pas autant que Pépé, mais qu'il le fait de temps en temps. Pas de grosse nouveauté sur MIUI 14, les Chinois ont des trucs en plus, comme d'hab. MIUI 14, il y a juste un truc qui dit qu'il va y avoir du retard et ce qu'il pourrait y avoir comme nouveauté. Non, MIUI 14, on a ça. Pardon Jinx. MIUI 14, on a ça. Bon, c'est des rumeurs. Ok, j'ai rien dit. Rien de vérifié, effectivement. Mais ça devrait pas tarder. Et on a la liste des modèles compatibles ici. Et ça, voilà, ça c'est officiel. Vous pouvez ajouter un corgi à votre écran d'accueil. Ça vaut le coup de faire une super vidéo. Hein. J'essaie de... Bon, je te laisse répondre d'adou. De quoi qu'on va parler d'autre, Frandroid, iOS 17. On va faire iOS 17 rapidement puisqu'on était sur les OS de smartphone. Selon spécialiste Mark Gurman, iOS 17 serait une mise à jour plus importante qu'initialement prévue par Apple. Cette future version devrait ainsi apporter certaines des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. iOS 17 est la prochaine mise à jour d'envergure pour les iPhones, notamment pour les iPhone 15. Prenant la suite d'iOS 16 et des quelques améliorations qui ont suivi comme iOS 16.4. Cette nouvelle monture promet d'être bien plus importante que prévue. Donc là, c'est une information qui venait de Mark Gurman. Mark Gurman, journaliste de l'agence Bloomberg, qui est très bien informé sur Apple, qui fait partie, bah, qui est probablement le journaliste le mieux informé sur les projets d'Apple, au même titre que l'analyste Ming-Chi Kuo. Donc, journaliste de Bloomberg, tout. Bon. C'est même pas mon article, et pourtant, je sais ce qui va être écrit. On était sur Bose. Ah oui, Sonos. On était sur Sonos, effectivement. Oh! Ah ouais, je me suis... J'ai complètement zappé les Sonos. Bon, on finit iOS 17 et on reprend Sonos derrière. Mark Gurman explique que lorsqu'Apple a commencé à développer iOS 17, l'idée initiale était d'en faire une version de mise au point, davantage axée sur la correction des bugs et l'amélioration des performances que sur l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Il poursuit en affirmant qu'en agissant de la sorte, la firme à la pomme espérait éviter les soucis qui ont émaillé le lancement d'iOS 16. Cette version était ambitieuse, mais a connu quelques bugs, voilà. iOS 17 veut faire plaisir aux utilisateurs. Plus tard dans le processus de développement, la stratégie a changé. La version 17 d'iOS devrait désormais présenter plusieurs fonctionnalités agréables à avoir, même s'il manque une amélioration majeure comme l'écran de verrouillage remanié de l'année dernière, qui était plutôt une belle innovation. Mark Gurman conclut en affirmant que la mise à jour à venir a notamment pour but d'apporter plusieurs des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Apple devrait dévoiler les nouveautés d'iOS 17 lors de la WWDC 2023, conférence dédiée avant tout aux développeurs, pressentie en juin prochain. Il faudra ensuite miser sur une bêta pendant quelques mois avant de voir la version stable arriver plus ou moins en même temps que l'iPhone 15. Notons enfin qu'iOS 17 devrait notamment être la mise à jour autorisant des magasins d'applications alternatifs pour concurrencer l'App Store d'Apple, une nouveauté poussée notamment par le Digital Market Act de l'Union Européenne et dont Microsoft veut profiter aussitôt que possible avec une sortie de Xbox Store. Très très bonne nouvelle ça. Voilà. Est-ce qu'il y a personne qui a acheté un S23 Ultra avec ODR à 800€ sur le site de Samsung saurait me dire comment elle l'a eu si elle a su qu'il y avait une grosse promo. Ah oui, D-Lab ou Frandroid, peut-être qu'on avait fait un article sur Frandroid, je ne sais pas. Nous aussi on a des bons plans, hein. Eh, y a pas que D-Labs, hein. En vrai, D-Labs, c'est pas mal. Quand on cherche un truc précis, c'est pas mal. Voilà. Sans doute sur Frandroid. Merci, Moindingo. En vrai, quand on cherche un truc précis, moi je sais par exemple des objectifs d'appareil photo, j'ai une recherche permanente sur D-Labs où je me rends avec une alerte, etc. parce que c'est ce qu'on ne traite pas sur Frandroid, les objectifs photo. Voilà pour iOS 17, on va parler rapidement. On était sur Sonos, la RA 300. On fait RA 100 ou RA 300 d'abord? Je crois que c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. On va faire uniquement la RA 300. La RA 100, elle est bien, mais enfin, elle est très bien en termes de qualité sonore, etc. Mais c'est une enceinte qui est plutôt classique, enceinte Wi-Fi. Et surtout, les nouveautés qu'on a sur la RA 300, c'est les mêmes nouveautés que sur. Enfin, on les retrouve également sur les nouveautés qu'on a sur la RA 100, pardon, on la retrouve également sur la RA 300. Donc là, le gros modèle. Idem pour certains produits comme des étagères pour mes BD Live. Ouais, non, mais en vrai, c'est quand même assez pratique. Tu fais bien, Yaoun. Donc la RA 300, nouvelle grosse enceinte Dolby Atmos de chez Sonos, qui grosso modo va remplacer, même si elle reste en gamme encore, la Sonos 5, je crois. Ouais, c'est ça, la Sonos 5 qui était un peu leur grande enceinte jusqu'à présent, à 650€. Sauf que celle-là est compatible Dolby Atmos, avec une architecture qui est plutôt solide, avec 6 haut-parleurs à l'intérieur, et notamment des haut-parleurs qui envoient vers le haut. Une compatibilité avec les fichiers Dolby Atmos sur Apple Music et sur Amazon Music, évidemment sur les films aussi. Compatibilité avec les barres de son, donc vous pouvez mettre par exemple 2 enceintes, alors ça fait un peu cher, hein, mais Sonos RA 300 à l'arrière avec une barre de son Sonos devant, et avoir un son qui va vraiment être un vrai son spatialisé à la fois vers l'avant, à l'arrière et vers le haut. Grâce au que ça soit ou de Biatmos, des barres de son ou des enceintes derrière vous, et une connectivité qui est Bluetooth, donc elle fait enceinte Bluetooth sur batterie, enfin sans batterie évidemment, donc c'est forcément branché en filaire. On va également avoir une calibration désormais sur Android aussi. Donc la calibration, ce qu'on appelle TruePlay, avant c'était disponible uniquement si vous avez un iPhone. Désormais, l'enceinte en elle-même, elle va pouvoir émettre un son si vous avez un smartphone Android et se calibrer automatiquement en fonction de la résonance dans la pièce dans laquelle elle est positionnée et l'endroit où elle est positionnée. 2 assistants vocaux, donc Alexa et Sonos Voice. Pas Google, parce que Sonos est un peu en conflit, enfin juridique, judiciaire avec Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une consommation qui est plutôt maîtrisée, une courbe qui est vachement bien, une courbe de réponse qui est plutôt flat, qui va pas être trop poussé dans les médiums, avec un peu de loudness, ce qu'on appelle, donc ça va pousser un petit peu les basses à faible volume, justement pour quand même qu'on puisse la ressentir, ce qui est plutôt efficace, et les réduire un petit peu à fort volume. Là on le voit, la courbe orange ne suit pas la courbe rose par exemple, pour éviter justement d'avoir un son qui va être trop si vous êtes à fort volume. Parce que de toute façon, à fort volume, on va les entendre. Donc l'appairage Bluetooth, la possibilité de brancher avec cette petite prise-là, moyennant un adaptateur qui coûte 25€, une source filaire. Donc via la prise USB-C, vous pouvez acheter un adaptateur à 25€ et brancher par exemple une platine vinyle qui va être déjà amplifiée. Avec un préamp ou n'importe quelle source sonore si vous avez n'importe quoi, mais c'est un collègue qui posait la question, si vous avez par exemple une source, vous voulez brancher un téléviseur directement sans avoir de barre de son, vous pouvez théoriquement le faire en passant par ça. Alors je sais pas quelle sera la latence, mais voilà. Et qualité audio surtout, voilà, la sensation Dolby Atmos. La diffusion en stéréo n'est rien en comparaison de ce dont est capable la Sonos Era 300 avec des titres en Dolby Atmos. En préalable, rappelons qu'un titre mixé en Dolby Atmos contient 5 à 7 canaux horizontaux, soit une quantité d'éléments sonores bien supérieure à un titre en stéréo où il n'y a que forcément 2 canaux. Au moins 2 canaux d'influx Atmos doivent être positionnés derrière l'auditeur, ce qui n'est pas une mince affaire pour une petite enceinte seule. Si la Sonos Era 300 y parvient sans mal, et c'est une énorme surprise. Ainsi, la stéréo et le Dolby Atmos, entre la stéréo et le Dolby Atmos, le fossé est gigantesque. On a une super qualité audio sur cette enceinte. Genre vraiment, c'est une excellente enceinte. Pour profiter de titres en fichier avec une très bonne spatialisation. Malgré sa taille, ça s'entend, exactement. C'est vraiment toute la surprise, et c'est ce que dit Tristan, hein, d'ailleurs, qui a testé l'enceinte. En plus, on a une dimension verticale. Pour profiter du son exceptionnellement immersif de cette enceinte, il est nécessaire d'être positionné face à elle, ce qui est un peu le problème par rapport au HomePod, mais on y reviendra. Par conséquent, on installera la Sonos Era 300 plus volontiers dans un salon, une chambre ou un bureau à 2 mètres au moins du point d'écoute. Et donc, il le dit, je crois qu'il le dit, l'enceinte est petite, mais relativement petite, elle est quand même grande. Hein. L'enceinte d'ici, hein, son puissant et charpenté sans rapport avec son gabarit moyen. Et en fait, aujourd'hui, la question, elle peut se poser, est-ce que, parce que on a mis 9 sur 10, malgré un prix qui est plus élevé que celui du HomePod, hein, si on prend le HomePod, je crois que le HomePod, c'est HomePod 2 for Android, le dernier HomePod, c'était 9 sur 10 aussi, ouais. Pour un prix qui est plus accessible, 350€ contre, sur la Sonos Era 300, on est à 500€. Donc on est à 150€ de plus. Est-ce que pour ce prix-là, il n'est pas plus intéressant d'acheter une barre de son malgré l'encombrement ? Pas nécessairement. Vraiment, ça va dépendre des barres de son, évidemment. Et surtout, tu vas avoir des barres de son qui vont pas être hyper efficaces en musique. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment conçu pour la musique. Ça va dépendre de la barre de son. Mais à 350€, tu vas avoir assez peu de barres de son qui vont être compatibles Dolby à 500€, si tu peux commencer à avoir des barres de son Dolby Atmos. C'est pas le même usage. C'est pas forcément le même usage. Et surtout, le problème de la barre de son, ouais, c'est que tu vas pas forcément avoir une musicalité qui va être là. C'est un truc que Tristan teste assez souvent sur les barres de son. Si on regarde test les barres de son, elles sont où? Il teste souvent, voilà, si on prend la JBL Bar 1300, souvent il va tester l'audio, mais il va tester également donc le rendu sonore, etc., la sensor round, donc pour les films et les séries, mais les performances musicales aussi. Et c'est pas parce qu'une barre de son va être efficace pour un film ou une série qu'elle va l'être pour un rendu musical, notamment parce que les basses vont pas forcément être à la hauteur sur une barre de son, là où elles peuvent davantage l'être sur une enceinte qui est dédiée vraiment à la musique. Donc ouais, et pour le coup, on vous prépare aussi un comparatif, justement un versus, comme on en fait de temps en temps, entre la Sonos Era 300 et le HomePod. Ce qu'il faut retenir grosso modo, c'est que la Era 300 va être meilleure en quasiment tout sauf dans la diffusion du son. C'est-à-dire que la Era 300, elle va être bien si... Admettons, je pense à un. Ça, c'est la Era 300. Ça va être bien si elle est face à moi. Si elle est là, le son, bah, il sera trop directif, il viendra de la gauche, si je la mets ici. Là où le HomePod, il va vraiment diffuser partout autour de lui, et il va être très efficace justement pour produire un son à 360 degrés partout. Donc même si vous n'êtes pas pile en face, le son va être vachement bien. La musicalité, c'est de la musique après une chute aussi. J'aime bien Didi Cartman. J'apprécie ces blagues nulles. Elle arrive à détecter où elle se trouve par rapport à son environnement, car et s'il faut être face à elle, ça veut dire qu'elle ne détecte pas. Oui, mais elle sait pas où t'es toi. Elle va arriver à détecter grosso modo parce qu'elle fait la calibration. Donc elle envoie du son et ça se reflète et partout. Et donc les ondes sonores reviennent dans les microphones qui sont intégrés directement à l'enceinte. Donc elle sait où elle est, mais elle sait pas où toi tu es. Et surtout, elle a des haut-parleurs qui sont qui envoient vers là. Attends, tu les vois, ils sont envoyés vers là, vers le côté, mais pas derrière. Et vers le côté, c'est pas forcément les mêmes haut-parleurs que ceux qui sont devant. Là où pour le coup, l'avantage du HomePod, je l'ai fermé. L'avantage du HomePod, c'est que lui, alors je crois qu'on le voit ici, voilà, il a des haut-parleurs qui envoient 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 4, et vers le haut. Donc ça envoie vraiment dans toutes les directions de façon égale. C'est là où il est fort. Là où la Sonos, elle n'est pas faite pour envoyer dans toutes les directions de façon égale. Elle est faite pour envoyer devant elle et avec du son qui vient, qui est latéral, mais qui n'est pas la même piste que celle qui est envoyée en face. C'est ça l'idée. Et donc ouais, on vous prépare un versus pour justement vous expliquer dans quel contexte laquelle est, l'une serait meilleure que l'autre pour vous. Sachant qu'il y a également évidemment la Sonos Era 100 qui elle est moins chère, or qui est quand même chère, hein. Je crois qu'elle a 270€ de mémoire. La Sonos Era 100. Ouais, 280€. Donc elle est moins chère que le HomePod, mais évidemment elle va pas avoir un son qui sera d'aussi bonne qualité, et elle a pas de Dolby Atmos. Enfin, elle a un très bon son, une très bonne musicalité, mais elle a pas de Dolby Atmos. Puis l'avantage de chez Sonos, c'est à chaque fois c'est la même chose, c'est que vous achetez une enceinte Sonos, vous achetez une autre enceinte Sonos, vous achetez une barre de son Sonos, vous achetez que sais-je, tout aura la même ligne, enfin tout aura la même signature sonore, et vous aurez un système qui sera harmonieux chez vous. Et ça, c'est un truc que Tristan salue, c'est que si on compare, là, on a la Sonos Era 100 en orange et la Sonos One en vert. Bah grosso modo, on a une signature sonore qui est quand même très proche entre les deux. Donc vous pouvez faire fonctionner l'une avec l'autre sans aucun problème. Vous n'aurez pas de grosse différence en termes de qualité sonore et ça fonctionnera de façon harmonieuse. Ah bon, après Sonos, c'est déjà décisif pour toute personne n'ayant pas iOS. Non, mais maintenant tu peux. Maintenant tu peux faire la calibration directement depuis Android sur ton, en utilisant les micros, alors non pas de ton smartphone Android parce que c'est trop compliqué pour Sonos parce qu'il y a trop de références de smartphone. C'est pour ça en fait, ils ont pas les informations de calibration de chaque micro de smartphone. Là où sur iOS c'est plus simple parce qu'il y a pas tant de micros que ça. Tant de modèles que ça, mais maintenant tu peux le faire du coup sur Android en passant par les micros qui sont intégrés directement à ton enceinte. En balançant une fréquence de 44 kHz, on peut mesurer une distance à 3 cm près. Ok, 44 kHz, tu l'entends pas de toute façon normalement, mais c'est du ultrason. On voit qu'ils travaillent la sortie de leur son sacré signature identique. Ouais, ouais, non, c'est... Et puis même, on voit vraiment les mêmes variations là à 200 Hz avec le petit pic. Ça remonte ensuite autour de 300, ça redescend, enfin vraiment, il y a juste après effectivement sur les hauts médiums, que ça va, qu'il va y avoir une différence, mais c'est un son qui est quand même très très proche. Et on voit du coup que la Sonos Era 100, elle envoie un peu plus, elle a un peu plus de volume sonore que la Sonos One. Puisque là, à chaque fois, on était au volume au maximum sur les deux enceintes. C'est un truc pareil qu'on fait maintenant sur les enceintes, on a des courbes de réponse en fréquence, donc pour montrer la signature sonore, et qu'on va faire aussi à plusieurs volumes pour justement voir s'il y a ce qu'on appelle de la loudness, donc c'est-à-dire que si l'enceinte va s'adapter en fonction du volume sonore avec des différences. Là, on voit qu'il y en a, par exemple, parce qu'à volume maximum, elle va envoyer un petit peu moins de basses que sur le reste. Donc, elle réduit les basses parce que on les entend encore plus quand le volume est élevé. Donc, du coup, elle diminue les basses. Quand ils ont annoncé l'Era 300, j'étais intéressé, mais j'utilisais l'écosystème DTS Playfy, donc je suis resté avec du Fidelio Boards & Weekends. Dommage que le produit a l'air très intéressant. Après, Jeanne Blanco, pour le coup, DTS Playfy, ça marche bien. Et l'avantage, c'est que c'est un écosystème ouvert, relativement ouvert en tout cas, puisque c'est, tu le dis toi-même, hein, c'est compatible Fidelio, donc Fidelio c'est Philips, et Bowers & Wilkins qui est un autre constructeur, donc tu peux le faire fonctionner avec plusieurs enceintes, plusieurs trucs, ce qui est un gros avantage. Et en plus c'est compatible Google Cast, si je dis pas de bêtises, DTS Playfy, ce qui n'est pas le cas sur la Sonos, enfin les nouvelles Sonos, on peut pas envoyer du son depuis Google, la fonctionnalité Cast sur son smartphone, sur Android. Sur Android, il vous faudra forcément passer par l'application Sonos ou par la version Bluetooth, mais voilà. Faut qu'on fasse un truc d'ailleurs. Je crois que avec Tristan, on avait parlé de faire un dossier sur les différents écosystèmes entre DTS Playfy, Google Cast, Spotify Cast, tous ces trucs-là. Comment ça fonctionne, même AirPlay, comment ça fonctionne, quels sont les différents systèmes, qu'est-ce que ça va permettre en termes de, à la fois de nombre de canaux, de tout ça. Il y a pas mal de trucs à débunker. Et DTS Playfy, c'est vrai que c'est un truc dont on parle assez peu, mais qui a priori marche bien. 44 Hz, c'est la fréquence d'échantillonnage et d'échantillonnage des CD aussi. Oui, 44,1 Hz, mais c'est parce que c'est les pistes stéréo sur les CD, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que c'est à 44, il me semble. Hein. Le jour où il y a anti-bruit capable de filtrer les cris des goélands, alors je saute dessus. Probablement les Quiet Comfort Earbuds 2. Hein. Je serais pas étonné qu'ils y arrivent. C'était l'occasion lors du bus d'écouter... T'es pas à Paris, toi, lors du bus. On a des goélands à Paris, donc la question, elle est... Non, on a des mouettes, on n'a pas de goélands, pardon. Oui, donc non. 80 décibels sur le balcon. En vrai, ça se tente, hein. Des Comfort Earbuds 2. Alors, 80 décibels, je pense que ça va être difficile. Ok, j'ai rien dit. Je crois me souvenir que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence du signal analogique souvenir de mes cours de 80 décibels. Oui, c'est pour ça. On fréquence d'échantillonnage de 44 kHz, mais en soi... Le signal analogique, il va être de 20 000 Hz. Ça serait cool un dossier de ce genre. Votre dossier sur les codecs m'a beaucoup aidé à l'époque. Tant mieux. En vrai, on en a plein des dossiers. Enfin, c'est un truc sur lequel moi j'ai beaucoup bossé parce que, que ça soit la rubrique audio. En gros, Frandroid, historiquement, on est vraiment sur les smartphones. Hein. En tout cas, on était sur les smartphones. Moi, je me suis retrouvé en charge de la rubrique audio, de la rubrique wearables et la rubrique photo. Photo, c'est le pire parce que photo, il n'y avait rien. Ouais, photo, il a fallu tout expliquer. Donc, le dossier sur les objectifs que je vous montrais tout à l'heure, c'est un truc qu'on a fait. On a un dossier sur les capteurs photo. On a un dossier où, à chaque fois, moi, mon but, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne telle technologie, ce que ça fait, et comment est-ce que vous pouvez, bah, vous pouvez vous en servir pour choisir quelque chose. Voilà. Ça, c'est un dossier sur les capteurs photo. Sur les codecs, évidemment, donc, du coup, on l'a fait, mais on l'a fait également sur les transducteurs. Ça, c'est un dossier pareil à chaque fois, qu'on référence à chaque fois. Comment fonctionnent les écouteurs de vos casques et écouteurs? Qu'est-ce qu'un transducteur? Parce qu'à chaque fois, on parle de transducteur de 6 mm dans telle paire d'écouteurs ou de 40 mm dans tel casque. Bah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un transducteur dynamique? Transducteur dynamique. Qu'est-ce que c'est un transducteur à armature équilibrée? Qu'est-ce que c'est un transducteur planaire? Piézoélectrique, planar magnétique, électrostatique, conduction osseuse. Voilà. Et donc, on essaie d'expliquer justement pour que quand les constructeurs utilisent des termes, ça soit pas complètement. Qu'on n'ait pas l'impression que ça soit que du marketing, mais voilà, qu'il y a des choses derrière, et essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Pour effacer les sons aigus, vaut mieux du Sony WF-1000XM4 que du Bose, non, d'après le comparatif que tu avais fait. Oui. Plutôt. Après, je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, je serais toi, Mondingo, j'attendrai probablement quelques mois pour les Sony, parce que je serais pas étonné que les WF-1000XM5 soient annoncés rapidement. J'ai pas d'infos, toujours pas, d'ailleurs. J'ai pas d'infos, mais je serais pas étonné que ça soit le cas prochainement. Vos dossiers sont super. Bah, merci beaucoup, Yaoun. C'est pareil, on a sur les enceintes, on a Dolby Atmos, on a deux dossiers. On a un dossier sur Dolby Atmos, DTSX, Dolby Digital, etc. Donc tout ce que ça veut dire sur les barres de son et le home cinéma. Donc les différentes versions. On en a un sur Dolby Atmos et 360 audio pour l'audio et la musique. Sur l'audio spatial au casque. Et en quoi est-ce que c'est différent de la stéréo? Parce qu'en vrai, au final, ça revient au même, puisque bah, on a quand même un son qui vient d'une oreille, un son qui vient de l'autre, donc c'est de la stéréo. Mais le fichier va être un peu différent. Qu'est-ce qui change en fait pour créer ces fichiers-là? On a pareil un dossier sur la connectique des barres de son. Hop. Non, il est là. SPDIF, HDCP, EDID, HDMI, ARC et IARC, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc les différentes normes de HDMI, l'EDID, c'est quoi? Quelle est la différence entre ARC et IARC? HDMI, CEC, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça vous permet? Le Toslink, donc cette petite prise-là, ici, à quoi ça sert? En quoi c'est différent du coaxial numérique? Donc la prise, alors là, elle est en bleu, mais souvent elle est en orange. En vrai, c'est pas différent, c'est la même chose. Mais c'est le connecteur qui va être différent. Le port USB-A, souvent à quoi il va servir? L'entrée ligne analogique, éventuellement. Donc on a fait plein de dossiers justement pour essayer d'expliquer, pour essayer de vous amener un petit peu à comprendre tous ces univers-là. Et c'est des dossiers qu'on link à chaque fois. C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends le test du HomePod 2, si je tape Dolby, hop, normalement j'ai bien linké. Voilà, Dolby Atmos, c'est linké vers là, pour que les gens comprennent de quoi on parle. S'il a parlé de transducteur, je pense. Ah non, j'ai oublié le linker. Mais transducteur, c'est pareil, je le link à chaque fois, justement pour que les gens, quand on utilise des termes qui peuvent paraître techniques, parce qu'en fait, on parle de transducteur, mais c'est un haut-parleur. Il y en a qui parlent de driver, parce qu'ils utilisent le terme anglais, etc. Donc voilà. S'il trouve un système pour les oreillettes à la Bose, il ferait fort. Ouais, sur Sony, oui. Des dossiers pratiques pour savoir si une techno est un besoin ou non. Exactement. Et même au-delà de savoir si c'est un besoin, c'est que c'est des articles qui permettent de comprendre. C'est-à-dire que, pareil, en photo, j'avais fait un dossier sur le RAW. RAW photo, plutôt bien référencé, ma foi. Fichier RAW, qu'est-ce que le format RAW utilisé en photographie? Bah, où pour le coup, j'expliquais, et celui-là, c'est pareil, j'en suis très content. Qu'est-ce qu'un fichier, quand on parle de fichier RAW en photo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et quelle est la différence avec un JPEG? Qu'est-ce que va vous permettre un fichier RAW que ne vous permet pas un JPEG? Plein de choses, mais, et surtout déjà, un RAW n'est pas une image. Un RAW, c'est un fichier. Un RAW, tu ne peux pas le voir en soi. Mais celui-là, je vous le partage parce que voilà, je me la pète, j'en suis content. Donc voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, sur smartphone, vous pouvez prendre, enfin, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, cette photo-là, je l'ai prise, ouais, avec un Pixel 6 Pro, donc je l'ai prise en RAW. Là, pour le coup, j'ai pris cette photo-là, avec le smartphone. Alors, j'ai fait exprès de sous-exposer. Hein. J'ai pris cette photo-là avec le smartphone, en RAW et en JPEG. Le JPEG, si je pousse la luminosité au maximum, j'arrive à ça. En RAW, si je pousse la luminosité au maximum, j'arrive à ça. Donc, j'ai beaucoup plus d'informations sur les étagères que sur le JPEG. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont dans le fichier RAW. Après, l'image est crade, hein, mais c'est un autre sujet. Combien de jeux filment en Dolby Atmos ou en audio HD Master? Rien qui ne justifie le passage à l'audio 3D, d'autant que la PS5 le fait bien avec Tempest en stéréo. De films, t'en as plein. Des films en Dolby Atmos, t'en as plein. Même sur des plateformes de streaming aujourd'hui. Hein. Je comprends pas ton... Dolby Atmos, c'est partout. Beaucoup plus que DTSX. Tu vas sur Netflix ou Disney+, ou une autre plateforme, tu tapes Dolby Atmos. Tous les blockbusters, par exemple, sont en Dolby Atmos. Quasiment. Et t'en as qui sont remixés des vieux Je pense que Jurassic Park, il existe aujourd'hui en Dolby Atmos. Hein. Jurassic Park existe en Dolby Atmos. Alors, je ne sais pas si c'est la version qu'on a sur Netflix. Elle est en Dolby Atmos. Mais je t'invite, Martial Aravis, à faire une recherche sur Netflix Dolby Atmos. Tu verras tous les contenus qui sont compatibles. Tu en as énormément. Le dossier sur la différence de la focale sur les visages pratique pour comprendre pourquoi le... Ah, voilà. Gros nez. Mon dossier gros nez. Je l'appelle comme ça. Hop, pareil, ça c'était un article dont j'étais... Ah ouais non, si je tape juste Groné, je vais pas l'avoir. Mais Groné Frandroid. En plus, on avait fait une vidéo qui était cool, celle-là. DTS6, c'est souvent associé à l'IMAX. Pas forcément, parce que IMAX, c'est une autre marque. DTS6, c'est peut-être souvent associé à l'IMAX, parce qu'en fait, c'est peut-être des éditeurs qui veulent pas travailler avec Dolby. Donc, qui utilisent l'IMAX pour la vidéo et DTS6 pour le son. Rappel, le fonctionnement du JPEG, c'est de comprimer à 20% par le fait qu'on réduit les 10% de... Sûrement leur Gipus, sûrement. Écoutez, il est 10h59, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aura parlé de pas mal de choses, mais pas toutes les actus, mais on aura parlé de pas mal de choses quand même. Je m'en mets en chat. Je vais lancer un raid vers je ne sais qui encore, qui est en live. Eh ben écoutez, j'ai pas d'inspi. Ben de rien, merci Lorgibus, merci à Jeannot Blanco, merci à Jinx également d'avoir suivi. Qui est en live? Ben écoutez, non, ben je sais pas. Samuel Etienne, comme la semaine dernière. Hein. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui est une journée où l'essentiel de l'actu, c'est pas l'actu tech. Donc on va faire un petit raid vers Samuel Etienne pour avoir le reste de l'actualité de la journée. Faites-lui un bisou de ma part. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je serai pas en live jeudi du coup, parce qu'aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement ça devait être Titouan qui devait, alors je sais pas si ça avait été annoncé d'ailleurs, mais c'est Titouan qui devait faire le live initialement, qui est un petit peu malade. Donc il y a Geoffroy de Frandroid en live, tu pourras le raid, ça peut être sympa. Bonne idée, on va faire ça aussi. Je suis pas en live jeudi parce que a priori ce sera Tizon qui sera là, mais moi je vous retrouve la semaine prochaine le jeudi matin pour le live Twitch. Je vous fais de gros bisous et il y aura évidemment un live demain matin présenté par je ne sais plus qui, peut-être Manu, je suis plus sûr. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Hop, j'envoie le raid et je vous dis bye, ciao tout le monde, salut.